Psaume 143, il dit ceci: Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi.
Amen.
L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. J'ai réfléchi sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Ce psaume est plein d'enseignements, mais je me suis quand même arrêté au verset 2 et 3. Étant Éternel, écoute ma prière. Ça, c'est le verset 1. Prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Et puis, verset 2, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mais le texte m'arrête sur le fait que il n'y a aucun juste sur la terre. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Quelle déclaration! C'est vraiment la déclaration d'un évangélique, hein, si nous parlons aujourd'hui en ces termes-là, de reconnaître que aucune personne n'est juste devant Dieu. Parce que j'ai dit évangélique parce qu'il y a les autres qui pensent que, bon, Dieu est amour, nous serons tous au paradis. Mais c'est ça l'extrême. Ou quand on est évangélique, on se reconnaît pécheur, on se reconnaît, n'est-ce pas, perdu sans Dieu, et nous n'avons le salut qu'en Dieu, à travers Jésus, son Fils, qui est venu vers nous, qui s'est fait homme, et n'est-ce pas, qui nous a rachetés de nos vaines manières de vivre. Nous ne pouvons comprendre qu'il n'y a aucun homme qui soit juste. Mais d'autre côté, tout le monde a le droit d'aller au paradis. C'est vrai, Dieu est amour. Mais nous devenons juste par la personne de Jésus-Christ, son Fils. Et dans le langage barbare, on dit que la justice nous est imputée. Donc, nous ne sommes pas juste par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous déclare juste en Christ. Quelle joie! Donc, nous pouvons ce matin dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et je suis heureux de voir mes bien-aimés.
Merci.
Ils se reconnaissent aussi. Parce que un bout de temps, je ne les ai pas vus. J'ai un peu souffert. Mais ils sont là. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Bienvenue, Willy. Et bienvenue, Marie-Pierre.
Amen.
Amen.
Ok, bienvenue aussi Nana et merci. Toute la famille merci. Là-bas.
Adieu. Merci beaucoup.
Bonjour.
Nous allons donc dire merci au Seigneur Amen. Qui nous déclare juste.
Amen.
Et le psalmiste dit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. Vous voyez? Donc c'est notre aussi déclaration ce matin. Nous voulons bénir le Seigneur, pas celui qui nous déclare juste, celui qui nous donne la vie, celui qui enlève nos péchés et celui qui nous permet d'être en sa présence ce matin. Ce n'est pas par nos forces, non. Il y a ceux qui auraient souhaité être là, mais qui ne sont pas là.
Amen.
Mais vous et moi, nous sommes là. C'est encore la grâce de Dieu. Donc, prions Dieu. Bénissons-le, rendons-lui gloire parce qu'il est bon. Remercions-le pour ses bienfaits, n'est-ce pas? Vous êtes libre, je vous donne la liberté de prier le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui nous donne la liberté de le prier.
Du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom, ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom. Nous renforts à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom, nous renforts à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
Oui, nous sommes ensemble pour glorifier le nom de notre Seigneur. Le Seigneur qui nous réunit et le Seigneur qui nous aime. Le Seigneur qui nous a manifesté son amour à la croix en se livrant lui-même pour que nous obtenions en lui le pardon de nos péchés, de nos iniquités, pour qu'en lui, nous soyons appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, en Jésus-Christ. C'est donc la grâce, c'est donc une grâce que nous avons de la part de Dieu. Merci notre Dieu et notre Père pour ta présence au milieu de nous, dans nos maisons. Merci parce que tu es celui qui nous conduit et qui prend soin de nous. Nous voulons te recommander les instants que nous passons ensemble pour que toi seul, tu sois loué, honoré et glorifié. Nous te prions par Jésus, notre frère et notre Seigneur. Amen.
Amen.
Merci, nous allons lire la parole de Dieu. Nous profitons quand le réseau est encore stable, du moins chez moi, pour que nous puissions partager la parole de Dieu, parce qu'il arrive des moments où on ne s'entend plus. Ou bien je parle, vous ne m'entendez, vous m'entendez à peine. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons au chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons du verset 1 au verset 12. Actes 13, versets 1 à 12. Je lis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi des proconsuls. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Le dimanche passé, notre frère qui nous avait prêché nous avait parlé de cet homme, Saul ou Paul de Tarse. Il nous avait parlé de sa conversion et surtout au chapitre donc 9. Et surtout, notre frère nous avait montré que Paul, sur la route de Damas, quand il rencontre le Seigneur, d'après leur entretien avec le Seigneur, Saul va demander au Seigneur qu'est-ce qu'il va faire, que devait-il faire. Il lui avait posé la question et notre frère nous a entretenu sur cet aspect de ce que nous puissions nous adresser à Dieu, demander à Dieu ce que nous devons faire pour lui, ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Je crois que c'était là un peu la substance de ce qu'il nous avait partagé, c'est qu'il est important dans n'importe quel moment de notre vie, dans notre marche avec Dieu, n'est-ce pas? Même si nous avons déjà 40 ans, 50 ans, n'est-ce pas, de la vie chrétienne, mais il importe que nous puissions de temps en temps nous arrêter et poser des questions au Seigneur, nous entretenir avec le Seigneur. C'est donc dans l'intimité, c'est dans la prière que nous devons demander au Seigneur qu'est-ce que nous devons faire. N'est-ce pas? Lorsque nous sommes en marche, nous devrions nous poser nous-mêmes des questions. Nous arrêter un peu un moment pour réfléchir. Mais Saul de Tarse, c'était au moment où le Seigneur l'avait saisi, qu'il pose la question. Et notre frère nous avait montré que, vous voyez, quand vous parlez à Dieu ou vous posez telle question à Dieu, mais Dieu, parfois, ne vous dit pas directement ce que vous devez faire. Et Dieu va utiliser des frères ou des sœurs pour vous dire ce que vous devez faire. Ou bien pour vous entraîner sur le chemin que vous devez, n'est-ce pas, entreprendre. Donc, nous avions vu que Paul avait besoin d'Ananias, qui avait pris quand même du temps avec lui. Et après, il a continué la marche. C'est vrai que vous et moi, nous sommes venus au Seigneur de différentes manières. Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour que nous les connaissions. Des hommes et des femmes qui nous ont enseigné la parole de Dieu ou qui nous ont parlé de Jésus et nous avons cru. Et Dieu nous a pardonné nos péchés, nos iniquités. Nous sommes en marche. Et ici, prenant toujours le cas de Saul, on voit ici dans le chapitre 13 où nous pouvions nous poser des questions, mais lui qui avait parlé avec Jésus, lui qui avait rencontré Jésus. Et d'ailleurs, quand on lit, n'est-ce pas, dans son livre aux Corinthiens, il se dit même qu'il est apôtre, qu'il est le dernier des apôtres, ou bien qu'il est le moindre des apôtres. C'est le sens que l'on peut donner à ce qu'il dit, parce qu'il se dit qu'il est eschaton. Donc, il est le moindre ou il est le dernier des apôtres. Mais on voit que c'est un homme qui était, quand on lit les livres, même des actes, on voit que c'est un homme qui était plein du Saint-Esprit. N'est-ce pas? À tel point que les gens pouvaient appliquer leur mouchoir sur son corps et aller, n'est-ce pas, appliquer sur le corps des malades, et les malades étaient guéris. Mais ici, on voit que cet homme, dans ce texte que nous venons de lire, je vois ici un aspect très important, que cet homme est resté fidèle à l'Église. Vous savez, c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances. Même avant la conversion, il avait déjà la maîtrise de l'Ancien Testament parce qu'il enseignait. Il était pharisien. Et il avait étudié au pied d'un grand savant Gamaliel de son temps. Mais lorsque le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas, il le transforme. Il passe de la foi pharisienne, n'est-ce pas, à la foi en Christ. Il devient, ce que je vois dans le texte, il devient un homme qui est flexible. Un homme qui écoute Dieu. Mais un homme qui écoute aussi ses frères et sœurs. Parce qu'ici, dans le texte que nous lisons, nous voyons qu'il est au sein d'une église locale. Et le genre des activités de cette église, c'est la prière. On voit que les gens priaient. Cette église était une église qui avait des prophètes et des enseignants, donc des docteurs. Donc, il y avait, dans cette église, on exerçait des ministères. Il y avait des gens qui avaient des ministères différents. Et on voit, ce qui me touche, c'est que, encore une fois, lui qui était plein du Saint-Esprit pouvait dire, Dieu m'a dit. Ou Dieu, j'ai entendu Dieu me dire ceci. Je dois aller en mission. Mais non. Il est dans l'église. Et c'est au sein de l'église, quand les gens prient, que Dieu se manifeste, encore une fois, et Dieu, n'est-ce pas, appelle, l'appelle et Barnabas pour un ministère qu'ils doivent exercer. Et le texte met l'accent sur le fait que, n'est-ce pas, le Seigneur parle. Et ici, le Seigneur dont il est question, on dit le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu aussi, n'est-ce pas? Le Père parle, mais ici, nous avons le Fils parle. On voit ici, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui parle. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Encore une fois, l'œuvre à laquelle ils sont appelés n'est pas directement explicitée. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit parle au sein de la communauté. C'est vrai, vous me direz certainement, mais pasteur, le Saint-Esprit nous parle aussi quand nous ne sommes pas dans l'Église, c'est vrai. Mais ici, pour l'envoi, on voit que le Saint-Esprit, c'est dans, lorsque ces gens sont entrés unis dans la prière, ensemble, ils sont en train de prier, mais il y a aussi une autre dimension, souvent que nous oublions, ils sont en train de jeûner. Ils ne jeûnent pas pour, n'est-ce pas, arracher des bénédictions, comme j'entends parfois quelque part. Mais ils sont ensemble, n'est-ce pas? Ils sont devant le Seigneur, ils s'humilient devant le Seigneur. Ils recherchent la face du Seigneur. Dans la prière et dans le jeûne. Ouais. C'est peut-être un aspect que je pourrais ici un peu soulever pour nous en tant qu'Église. Est-ce que nous avons aussi des moments comme celui-ci? Mieux, peut-être après le corona, bientôt quand nous allons nous retrouver, et nous essayerons à appliquer, mettre en pratique aussi cet aspect de la parole de Dieu. Nous réunir, rester ensemble, une journée ou quelques heures dans la journée en train de prier et de jeûner pour chercher la volonté de Dieu. Frères et sœurs, on voit que c'est... Et même si nous retournons au chapitre 2, n'est-ce pas, d'Actes des Apôtres, on voit que le disciple était ensemble. Il persévérait dans la prière et dans le jeûne. Il méditait la parole de Dieu. Il priait. Et le Saint-Esprit se manifestait. Où Dieu se manifestait. Donc ici, nous voyons cet aspect du Saint-Esprit qui parle lorsque des frères et sœurs sont réunis. Et là, ça me rappelle le psaume, n'est-ce pas, qui dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Cela que Dieu envoie, n'est-ce pas, son esprit, ou c'est là que Dieu, n'est-ce pas, Dieu envoie son esprit, et c'est là que Dieu agit. Frères et sœurs, être seul, c'est bien de persévérer dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, mais quand on est encore ensemble et réunis, n'est-ce pas, c'est mieux. Et le Seigneur agit. Le Seigneur exauce, le Seigneur donne des directives, le Seigneur nous enseigne. Et ici, il appelle Saul et Barnabas. Et on voit que appeler de cette façon, encore une fois, c'est que l'Église a pu discerner le fait que quelqu'un peut-être dans l'assemblée a dit que Dieu me demande qu'on mette à part Barnabas et Saul. Mais ce n'est pas fini. Si vous regardez le verset suivant, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Donc, on voit ici que si quelqu'un a reçu un appel, ou quelqu'un dit « J'ai reçu un appel », c'est bien. Et c'est même très bien parce que le Seigneur dit, Jésus lui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Okay. Mais quand nous avons reçu l'appel de Dieu, nous ne devons pas nous recommander nous-mêmes. Nous ne devons pas partir de nous-mêmes. Nous devons aussi, nous devons accepter que l'Église discerne notre appel et nous envoie.
Amen.
Parce que généralement, aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas peut-être le cas pour nous qui sommes réunis ici, mais vous en avez les échos. Il y a quelqu'un qui dort, qui se lève le matin et dit, Dieu m'a dit, je dois être docteur. Vous voyez? Ou Dieu m'a dit que je suis prophète. Ou Dieu m'a dit que je suis évangéliste. Et il s'en va. Il part de l'Église comme ça. Mais si on voit qu'au début, dans l'Église primitive, il y a cet aspect de discernement, et c'est l'Église réunie qui vous impose les mains et vous laisse partir. Donc, leur prière aussi vous accompagne. Et il reste, quand il reste, il ne vous oublie pas. Il continue à prier pour vous. Pour que là où vous êtes parti, ou là où vous partez, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous utilise. Mes frères et mes sœurs, mais en lisant cette parole, je suis aussi frappé du fait que Barnabas et Saul, si vous regardez au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc, on voit ici que ces gens sont conduits par le Saint-Esprit.
Mmh.
C'est le Saint-Esprit qui a demandé de les mettre à part C'est le Saint-Esprit qui les envoie. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend soin d'eux. Il les conduit, il les dirige dans le lieu où ils doivent enseigner la bonne nouvelle. Et même si vous continuez plus loin, vous verrez qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va leur dire, pas ici. Et ils vont aller ailleurs. Donc ces gens sont attentifs, ils écoutent l'Esprit de Dieu, ou ils écoutent Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons écouter Dieu? Est-ce dans le bruit de tout ce que nous sommes en train de faire? C'est vrai que Dieu est avec nous partout là, Dieu nous rencontre partout là, Dieu peut nous parler là-bas, mais on voit ici que ce sont des gens qui restent, n'est-ce pas, attachés à la prière, qui restent dans l'intimité avec le Seigneur, qui prie pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller, dans quelle direction ils partent. Et si vous regardez plus loin, dans le verset 5, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Donc, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Donc, ils avaient un plan. Ce n'est pas n'importe où ils prêchaient. Là, ils partent vers les synagogues des Juifs pour prêcher la bonne nouvelle, pour leur annoncer que Jésus est le Messie. Jésus est le Christ. Mais ce qui m'a retenu dans ce passage-là, dans le verset 5, n'est-ce pas? Ce qui m'a retenu, c'est cet aspect de voir que ces gens qui étaient appelés par le Saint-Esprit, mis à part par le Saint-Esprit, ces gens qui écoutaient le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas seuls dans leur ministère. Ils ont, n'est-ce pas, quelqu'un comme aide. On peut dire que c'est aussi un disciple qui les accompagne. Et nous connaissons les noms de ces disciples-là. Ils s'appellent ici Jean. Ils avaient, n'est-ce pas, Jean pour aide. Ils sont avec lui. Ils partent ensemble. Ils savent où est-ce qu'ils doivent aller, conduits par le Saint-Esprit. Et peut-être la dernière chose que j'aimerais partager avec vous dans ce texte, c'est de voir que lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, lorsque nous écoutons le Seigneur, lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, nous ne sommes pas épargnés de difficultés non plus. Parce qu'il y a une certaine évangile qui s'annonce aujourd'hui. Lorsqu'on est dans le Seigneur, lorsqu'on vit, on a accepté Jésus-Christ, on ne peut pas rencontrer encore des difficultés. N'est-ce pas? On interprète mal l'abondance. On pense que quand on est en Christ, c'est fini, toutes les difficultés. Quand on est près du Saint-Esprit, on ne peut pas rencontrer des difficultés. Mais le texte devant nos yeux nous montre, n'est-ce pas, que ces gens, Barnabas et Paul, sont confrontés à une difficulté. Il y a ici l'ennemi qui s'oppose à l'annonce de l'Évangile. C'est peut-être une puce qu'on nous met à l'oreille pour dire « Attention, vous êtes plein du Saint-Esprit, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Vous vivez en intimité avec Dieu. Mais cela ne vous épargne pas de rencontrer des obstacles sur votre marche, sur votre route. La route, en tant qu'enfant de Dieu, est pleine d'embûches. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que devant ces embûches, nous avons encore, n'est-ce pas, la grâce de les traverser, de remporter des victoires par le Christ lui-même. Donc, par de Dieu lui-même, c'est l'Esprit qui nous aide aussi à remporter des victoires. Ici, l'obstacle, c'est cet homme, n'est-ce pas, qui est magicien, qui est avec le proconsul, un homme haut placé, n'est-ce pas? Mais cet homme qui avait senti, donc c'est l'Esprit de Dieu qui avait œuvré aussi dans son cœur. Il voulait entendre l'évangile de Dieu. Mais voilà que là, il y a un magicien qui s'oppose, qui veut, n'est-ce pas, amener le proconsul sur la voie des ténèbres. Mais ce que nous pouvons voir, ce qui nous encourage, c'est de voir que Barnabas et Saul, qui étaient des hommes que Dieu avait mis à part, ils ont encore pu discerner que cet homme-là était conduit par le diable. Et les mots qu'ils utilisent sont parfois durs ici, parce qu'ils vont appeler cet homme « fils de diable ». N'est-ce pas? Pour montrer que son cœur est un cœur perverti. Ce n'est pas le diable qu'il avait créé non plus, mais c'est son cœur, ses pensées. Sa vie n'était plus la vie de Dieu. Il s'était, n'est-ce pas, attaché au diable, aux œuvres des ténèbres. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu, l'autorité que Dieu nous a confiée à vous et moi, que nous ne devrions pas avoir peur de ces gens non plus, de ces charlatans. Peut-être que vous avez déjà rencontré des gens pareils. Ceux qui lisent les mains ou bien qui interprètent certains signes. Mais si on voit que Barnabas et Paul ont confiance en Dieu, ils dépendent de Dieu, ils discernent que Limas est un enfant de diable, fils de diable. Son cœur est loin de Dieu. C'est un cœur perverti. Et là, ils vont utiliser l'autorité que Dieu leur a donnée. N'est-ce pas? C'est que le pouvoir ou l'autorité que nous avons reçue de Jésus qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours. Allez, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. » Et tout cela nous accompagne, mais nous devons savoir le manier cette puissance, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a confiée, pas l'Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit pour agir au moment opportun. Donc le Seigneur nous a confié, vous et moi, le Seigneur nous a appelés, nous a mis aussi à part comme Paul et Barnabas. Et nous sommes ensemble, vous et moi, nous sommes ensemble des disciples de Jésus-Christ. Et en tant que disciples, nous bénéficions de ce pouvoir. Nous avons reçu, n'est-ce pas, de Dieu, gratuitement. Le Saint-Esprit qui est à nous agit. Mais est-ce que nous savons discerner à quel temps, à quel moment nous devions agir selon ce que le Seigneur nous a donné comme pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas, n'est-ce pas, comment on dit dans publicité, je n'ai pas noté les mots, n'est-ce pas, ce n'est pas un spot publicitaire. Mais c'est vraiment la parole que nous avons reçue. C'est la promesse que nous avons reçue de Dieu. Et là, mes frères et mes soeurs, je peux m'interroger et vous interroger. Je m'interroge et je vous interroge. Qu'est-ce que nous faisons de ce que le Seigneur nous a donné? On est étonné de voir que par les mots de Paul, n'est-ce pas, cet homme est devenu aveugle sur le champ. Mais comment est-ce que nous agissons? Je ne dis pas que nous puissions prier pour que des gens deviennent aveugles, non. Mais Nous devons prier pour que les gens aient la lumière, retrouvent le salut, retrouvent la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais ma question est la suivante. Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous prions? Et comment est-ce que nous intervenons? Est-ce que nous avons la conscience que le Seigneur agit encore aujourd'hui avec nous? La réponse est oui. Amen. Si vous êtes évangélique, la réponse est oui.
Amen.
Si vous êtes libéral, vous allez dire oui, mais peut-être. Mais non, il n'est pas question de oui, mais. C'est ou bien. N'est-ce pas? Ou bien le Seigneur agit ou il n'agit pas. Mais vous, comme moi, je pense, nous sommes d'avis que le Seigneur agit encore aujourd'hui.
Amen.
Mais c'est peut-être vous et moi qui sommes faibles, qui ne savons pas discerner à quel moment, n'est-ce pas, user de ce que le Seigneur nous a donné comme autorité. Ou c'est vous et moi, parce que nous hésitons, nous avons peut-être peur de ce que, qu'est-ce qu'on dira? Et si ça ne, et si, si je fais ça, et si ça, ça ne produit pas d'effet, qu'est-ce qu'on dira? Nous ne devons pas marcher avec, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on va dire, comment est-ce que je serai vu, mais nous devons chercher à plaire au Seigneur.
Amen.
Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, n'est-ce pas, nous devons rechercher toujours à plaire au Seigneur. Parce que si nous essayons à plaire aux hommes, nous n'allons pas plaire à Dieu. Mais si nous plaisons à, si nous cherchons à plaire à Dieu, nous allons plaire aussi aux hommes. Donc, c'est vous et moi qui sommes ici responsables. Parce que Jésus, aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui rencontrent Jésus peut-être dans leur sommeil ou bien dans la vision, n'est-ce pas? Mais Jésus, le Seigneur, le Christ, qui est vivant, nous a donné la responsabilité. L'annonce et la parole de Dieu, c'est vous et moi. Ce n'est pas Jésus qui doit venir encore pour aller de maison en maison. Il le fait là où vous ne pouvez pas aller. Quand il y avait les rideaux de fer ici, de l'autre côté, à l'est, les chrétiens ne pouvaient pas traverser, Jésus pouvait continuer à travailler là-bas. Et il utilisait aussi, et curieusement, il utilisait encore des hommes qui traversaient avec des Bibles, n'est-ce pas, pour aller de l'autre côté. Et il épargnait ces hommes-là pour aller et revenir encore. Donc, vous avez lu les livres là sur les crises de martyrs, tout ça. Hein? Il y avait le bulletin chaque mois qui venait avec de nous encore des gens pour lesquels on devait prier, qui étaient de l'autre côté des rideaux de fer. Et de l'autre côté aussi des rideaux de bambou en Chine. Jésus continuait à agir, mais maintenant il envoie aussi des hommes et des femmes là-bas pour annoncer la bonne nouvelle.
Amen.
En Kabylie, en Algérie, dans des montagnes, et des gens qui sont là-bas, Jésus agit. Vous entendez qu'il est apparu, il y a quelqu'un qui était un imam qui s'est converti. Ce n'est pas un homme qui est parti lui annoncer la bonne nouvelle. Jésus lui est apparu et il s'est converti. Et il commence maintenant à prêcher, à lire la parole de Dieu, à prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, en Belgique, où nous sommes, en France, où nous sommes, n'est-ce pas? On ne nous interdit pas. Même si on dit, bon, ne laissez pas les papiers ici, mais on nous interdit pas de parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est parfois nous qui entretenons la peur. Mais moi, quand il y a des moments, je passe dans les Brabants wallons ici à côté, je trouve un panneau là, c'est conférence, n'est-ce pas, de francs-maçons. ce soir. On donne l'adresse, tout ça indiqué. Mais pourquoi est-ce que nous avons peur? Je voulais terminer. Ce n'est pas pour vous sermonner. Vous avez entendu que moi aussi, je suis inclus. Mais dans ce travail, nous avons besoin aussi des aides. Nous ne devons pas y aller seuls. Le Seigneur nous a appelés, vous a appelés. Nous devons former aussi des disciples, vous et moi, pour l'avancement du royaume de Dieu.
Amen.
Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Nous te louons parce que tu es le Dieu qui nous envoie. Et ton Esprit Saint continue à parler encore aujourd'hui. Merci Seigneur de continuer à nous orienter, à nous guider. Là où nous avons peur, donne-nous Seigneur le courage. Là où nous ne savons pas quoi faire, nous voulons dépendre de toi. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
OK. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent participer à la scène, nous prenons nos pains et nous allons prier le Seigneur. Nous allons les rompre pour dire, pour nous rappeler que le corps de Jésus a été meurtri à la croix. Il a été blessé pour nous. C'est de nos péchés que Jésus a porté à la croix. Et c'est pour nos péchés qu'il a été blessé, n'est-ce pas? Cloué à la croix. C'est pour nos péchés que Jésus a connu la mort. Et si nous partageons ce pain même à distance, c'est pour nous rappeler que le Christ a été crucifié, il a été blessé pour nous et son corps a été meurtri. Et de même, si nous prenons de ce vin à partir de chez vous, c'est pour nous rappeler que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. C'est pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités. C'est pas pour... Le Seigneur n'avait pas péché. Il avait été jugé. On a vu, n'est-ce pas, qu'il a été condamné injustement. Mais il accomplissait à la croix la parole, la promesse que Dieu, de Dieu, n'est-ce pas, la parole de Dieu qu'il accomplissait. Pour que nous ayons la vie en son nom. Seigneur, je te présente ces éléments. Je prie pour que tu le bénisses, tu bénisses le pain et le vin que de frères et sœurs ont préparé pour ce moment de communion. Merci parce que même séparés, nous vivons en communion, le Saint avec les autres par ton esprit. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Nous pouvons donc manger du pain. Et nous pouvons boire ce vin pour nous rappeler que le sang du Christ a coulé pour nous à la croix. Et le Seigneur lui-même nous dit, n'est-ce pas, à ses disciples, il dit, je ne mangerai pas de ce pain, je ne boirai pas de cette coupe, jusqu'à ce que je mange et je boive, n'est-ce pas, cela avec vous, dans le royaume. Prions, notre Dieu et notre Papa, nous sommes dans la joie de nous retrouver. Tu vois combien, même à distance, Je n'ai pas l'intention de quitter mes frères et sœurs.
Amen, amen.
Mais il faut que nous nous arrêtions, notre Père. Merci de nous conduire par ton esprit,
oui,
de nous donner ton discernement, de nous donner les ailes pour l'annonce de ta parole et de discerner des moments où nous devons intervenir avec autorité pour arrêter les manœuvres de l'ennemi. Nous te rendons gloire et louange pour la présence de chacun d'entre nous. Et merci de le guérir. Nous prions aussi pour des frères et des sœurs qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, qui sont empêchés.
Oui,
tu connais les raisons de leur empêchement. Nous prions, Seigneur, que tu les couvres de ta présence pour que prochainement, nous puissions nous retrouver ensemble.